Le laitier de notre bourgade était d'une stature imposante. Grand, musclé, le front barré des rides de la préoccupation, il y avait en lui une autorité naturelle, une rudesse même, qui le faisait ressembler à un gardien de l'époque des aurochs, empoignant sa corne dans les brumes matinales pour appeler sur des hauteurs pontues le soleil coincé derrière les barrières rocheuses et montrer à son troupeau que le maître était là, comme le prouvait cette sonnerie de corne. Pendant longtemps, chaque matin, on l'avait vu, en compagnie d'un jeune alémanique, parcourir les rues pour y déposer, dans toutes les boîtes des maisons où se trouvait un récipient, la quantité de liquide attendu, notée sur un petit carnet. Il était d'un âge où le laitier recevait le lait des paysans, le coulait, le transformait, levait la crème, confectionnait le fromage, les tomes, le serré, les yaourts, et les vendait, ainsi que les œufs passés dans une mireuse, évalués d'un œil plein de soupçons, comme si à l'intérieur de chaque coquille se trouvaient en germe tous les maux de la création. Il travaillait emballé dans un grand tablier en caoutchouc, l'air fâché, parlant peu. Sa femme servait les produits qu'il préparait. Il devait prendre sa retraite quelques 10 ans après la mutation de la profession. Les crus, oust, crème en vrac du balai, pasteurisation obligatoire, ordre supérieur pour la santé des peuples. Le laitier désapprouvait le procédé, tandis qu'il approuvait le décret gouvernemental. On était citoyen, mais on n'allait pas pour autant danser la polka sur les noix du Galta. La crème serait traitée de même manière, vendue en berlingots, en briques. Quand on fait n'importe quoi, on trouve toujours des mots pour ça. Le fromage serait confectionné dans une centrale adaptée, les yaourts deviendraient des marques, le lait collecté par des camions-citernes transformés dans des centrales adaptées à l'hygiène moderne, le tout contrôlé par des fromagers hautement qualifiés. Dans les laiteries, on distribuerait désormais toutes sortes de produits colorés, exotiques, sans relation avec la lointaine austérité du local où coulait le lait peu après la sortie du pis. Avec ça, on en supprimerait l'odeur. Il avait contemplé cette transformation de son air fâché, puis remis son commerce à une femme. Une femme allait faire le travail d'un homme. Voilà à quoi menaient tous ces chamboulements. Elle, au moins, ne serait pas gênée à l'idée de vendre des produits du terroir mélangés à de l'ananas. Elle ne se soucierait même pas de reconnaître dans le lait apporté par le paysan les herbages broutés. D'une voix empreinte du pathos des tragédies grecques, il avait proclamé que puisque tout foutait le camp, il prendrait désormais le gros bateau et irait se promener sur le lac en attendant la fin du monde, ou presque. Il pensait aussi se diriger du côté des eaux thermales. 50 ans passés dans l'humidité avaient déformé ses mains et raidit son corps, malgré des bracelets en cuivre portés au poignet, autant d'amulettes pour éloigner ses douleurs qui s'installent, qu'on le veuille ou non. Sa nature méfiante le poussait à croire que sans cela, les choses auraient été pires. Sa femme était petite et son visage trahissait un sentiment de déception perpétuelle, ce qui avait pour effet de soulever le coin de sa lèvre supérieure, sur la gauche du visage, comme pour renifler quelque chose de suspect, une odeur inconnue au lieu, une personnalité louche, un trou dans un vêtement, des sous volés. Et c'est ce couple que nous avons dû affronter, ma sœur et moi, durant les beaux jours de l'été 51, après la naissance d'une petite sœur, la dernière, nous avait-on promis. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. L'usage était d'acheter les marchandises, de les faire inscrire sur un carnet et de payer à la fin du mois. Chacun réglait selon ses moyens. Les bourgeois envoyaient la bonne. Les plus pauvres déposaient un acompte, l'air gêné. Ce geste leur valait un froncement de sourcils, un grognement, hein, « pouvez pas ajouter encore 5 francs » ou un haussement un peu méprisant de la lèvre supérieure avec un « j'aime bien ça » qui signifiait le contraire. Tout le monde se connaissait. On se retrouvait à l'église, aux ventes de charité organisées par la paroisse, on se saluait et on pensait que les choses finiraient par s'arranger. Quand les soldes montaient haut et les acomptes versés descendaient, les adultes envoyaient les enfants acheter au carnet. Il pensait que les commerçants n'auraient pas le cœur de refuser du lait à un enfant. Ce lait est indispensable à la croissance. Si tu le vois qui tire une drôle de tête, va plutôt à l'heure où il est occupé avec les paysans. Elle est moins dure, elle. Compréhension, indulgence, bienveillance. On leur demandait tout cela, mais qui se donnait la peine de les comprendre, eux, quand ils devaient à leur tour payer les fournisseurs, qui parlaient de ces commerçants qui avaient fait faillite par surcroît de bienveillance? Voilà ce que peut-être dissimulait l'air fâché du laitier, qui esquissait une forme de sourire, entamant un minuscule brin de causette, quand la bonne d'une bourgeoise, ou la dame elle-même, venait régler le compte du mois. Ma sœur et moi, les petites nous deux, étions mal vues des premiers au dernier jour du mois. Parfois, il nous arrivait d'avoir un peu d'argent frais et de changer de magasin pour obtenir les marchandises que nous souhaitions. Nous profitions de ces rares aubaines pour acheter un demi ou un quart de beurre, juste pour un cake, madame, ce qui aurait été ressenti comme une revendication déplacée là où trônait l'ardoise. Quand on doit autant d'argent, on ne mange pas de beurre, compris ? Le laïus importait peu, nous y étions habitués. Il fallait éviter surtout la retenue des sous comme à compte pour soustraire quelques-uns de ces redoirs qui traînaient sur tant de carnets. En sa quarantaine commencée, ma mère accoucha de son dernier enfant. Et cette naissance tardive l'entravait dans toutes sortes de petits boulots ingrats, autant de sous grappillés pour le lait, le pain, l'huile, un peu de beurre, jamais assez de crème fraîche qui accompagnait les meringues, signe évident d'échappement aux règles de l'ordre social. La naissance de cette petite sœur nous mit dans une situation difficile. Les ardoises nous fermaient les portes de beaucoup de magasins, laiteries et boulangeries comprises. Mon père avait obtenu un arrangement avec la femme du laitier bourru. Lui-même, à chaque paye, s'efforcerait de s'acquitter des montants dus, et madame nous livrerait le lait selon l'argent que nous lui présenterions, sans chercher à le retenir pour l'effacement de la dette. C'était une sorte de cessez-le-feu. Le vent allait tourner, il le sentait. Jusqu'à ce que ma mère, fatiguée par cet accouchement tardif et par les lessives pour mademoiselle bébé, retrouve ses petits boulots, l'année de cette naissance fut une longue course aux sous. On a les distractions qu'on peut. Il fallait chercher dans tous les coins et recoins des verres consignés, prudemment mis de côté au premier jour du mois, et les rapporter. Il nous arrivait de trouver dans des poubelles ou sur un banc des bouteilles abandonnées par un poivreau souhaitant effacer la trace visible de son forfait. J'en ai même emprunté, mais jamais plus d'une à la fois, dans un panier posé sur un porte-bagages de vélo. Qui possédait ce genre d'engin avait les moyens de contribuer au repas de la petite sœur. Ou encore, je faisais le tour des bistrots pour proposer des cornichons au vinaigre, cultivés par mon père, frottés par les petites nous deux et ensuite apprêtés par ma mère. Avant d'entamer ma tournée, j'allais dans le bois des Vernes, lever les yeux pour voir si un oncle d'Amérique n'était pas en train de volter au-dessus de ma tête, criait vers le ciel en arrondissant la bouche pour faire sérieux « Cornichon, cornichon maison, cornichon pour jambon !» tandis que j'observais sur un petit chemin de traverse une salamandre aplatie ou une souris desséchée. Ce petit moment de théâtre appartenait à la vie rêvée. Je m'entraînais pour mieux conjurer l'angoisse qui me desséchait la gorge au moment où je pousserais la porte du bistrot, entrerais en rougissant, me dirigerais vers la patronne que j'imaginais moins rude que son homme, virerais cramoisie avant de bredouiller « Nobjour, madame, si eux, besoin, cornichon, vinaigre, très bon », puis piquerais du nez, comme une mouette rieuse, se heurtant au mât d'un bateau. Souvent, je croyais choir dans une espèce de juffet de timidité, de honte et de révolte. Je mollissais, bafouillais jour, dame, nichon, corps, et puis m'effondrais, tête de flan noyée dans un caramel saumâtre. Une fois de plus, j'avais fait mauvaise impression. Je faisais toujours mauvaise impression. Dame m'avait sûrement prise pour une demeurée. Ma sœur préférait aller sonner chez des personnes âgées pour leur demander si elles avaient des courses à faire. Elle recevait en 3 et 4 sous pour cela, presque un demi-litre, avec de la chance, on arriverait à plus les jours de pluie surtout. Si la chasse au sou avait été maigre, si le produit représentait moins d'un demi-litre, la laitière du local de coulage nous versait d'un œil calculateur moins d'un demi-litre avec une grimace d'agacement. Nous avions conscience, nous les mal vus, les rejetés de nous battre pour la survie de la petite sœur. La souris ou la salamandre ne connaissaient plus cette crispation que j'éprouvais en me sentant suspendue au bon vouloir des autres, coupable de l'ardoise familiale, coupable d'avoir une petite sœur buveuse de lait. Même si les 5 sous étaient là pour le repas du bébé, je ne pouvais ignorer le rictus et mon « Au revoir, madame, merci !» restait sans réponse. Cette course aux sous avait aussi un visage moins rébarbatif, au premier contact en tout cas. Ce qu'il y a derrière l'apparence se révèle ensuite à condition de savoir observer. À 2 maisons de chez nous, il y avait un magasin d'antiquités tenu par une fratrie, 2 frères et 1 sœur, la quarantaine célibataire, tous jalousement gardés au nid par leur maman. Chez ces antiquaires, on ne trouvait aucune ardoise familiale en souffrance, au beau milieu de notre originale course, qui d'entre nous aurait eu l'idée d'acquérir de l'anticaille, qui aurait imaginé posséder l'une ou l'autre de ces pièces en porcelaine ornant la vitrine. Comparé aux tables Louis XV, j'imaginais que ces statuettes ne coûtaient pas cher et reluquaient d'un œil contrebandier et gourmand ces personnages joliment vêtus, sortis tout droit des 3 mousquetaires et autres Dumas. Les livres empruntés à la bibliothèque du collège me faisaient rêver, alors ces silhouettes en porcelaine, pleines d'amabilité et de courtoisie, m'aidaient à mettre des formes sur une réalité suggérée par des mots. Les vêtements portés démontraient que ces gens n'avaient jamais connu aucun souci de mangeaille et s'abandonnaient au gré des intrigues de la cour. Le kitsch de ces biscuits m'est apparu plus tard, mais alors ces couleurs fanées étaient d'un gage d'authenticité et les heures passées en contemplation me jetaient dans une durée accomplie, presque parfaite, croyais-je. Pour alléger le présent, je chargeais l'imparfait de vertus qui le magnifiaient. La mère en était tricotée, assise sur une chaise, posée près de la porte d'entrée du magasin. Lorsque nous passions, elle nous interpellait avec gentillesse, nous parlait aussi du tram qui, dans un autre fois forcément meilleur, brinque-ballait dans cette même rue, partait du port pour grimper jusqu'au pied du Jura. En hiver, il avançait vaillamment entre les murs de neige. Elle le regrettait. Ah, comme elle regrettait cet engin de ferraille et de bois qui déraillait un peu et donnait à la rue un air de grande ville. On l'avait remplacé par un car postal qui jamais n'amuserait autant les enfants que ce bon vieux tram. Désormais, ne passeraient plus que des moteurs à explosion qui dégageaient de ces odeurs. Un jour, ayant entendu parler de notre course aux sous, elle nous avait invités, nous, les petites nous deux, à venir, pas trop souvent, partager le souper familial. Nous n'avions pas à nous annoncer, il suffisait de toquer à la porte, à la fortune du pauvre jeune fille presque, et de bon cœur. Ce sera le partage du pain prêché par le Christ. Un certain sens de l'observation éveillait en moi de la méfiance. J'avais la conviction que l'être humain était de nature maligne. Aux échos des horreurs de la guerre dont on parlait encore abondamment, la bonté divine n'était plus qu'un constat d'impuissance. Je me demandais même si je n'étais pas devenue comme Madame de la Laiterie, pincée et sur mes gardes, quand pour la première fois je me suis rendue au souper des antiquaires, en compagnie de ma sœur, qui, pour obtenir le droit d'entrer, a soulevé un petit marteau en laiton en forme de main, une jolie menotte aux doigts longs et fins, tout le contraire de ces grosses pognes noircies par les travaux, sillonnées de crevasses avec des ongles fendus et des panaries au bout des doigts que je voyais aux livreurs de charbon, mécaniciens, maraîchers, ramoneurs. C'était une main d'aristocrate, celle d'un dauphin de France ou d'une marquise, et dans cet objet gracieux, il y avait une limite entre le dehors et le dedans, entre le rêve et la réalité. Cette curieuse postérité signifiait peut-être que chez les antiquaires, on mangeait dans une salle à manger garnie d'objets, semblables à ceux du magasin, on s'aidait d'une fourchette en argent pour déguster de la bécasse ou des ortolans accompagnés d'une sauce grand-veneur servie en vaisselle de fine porcelaine. Sur la table, des chandeliers à 3 ou 5 branches mettaient en scène ce raffinement exquis. Pour couronner le repas, on avait sûrement confectionné le dessert préféré de Madame de Pompadour ou un meringuet imaginé par Vatel. Les statuettes de la vitrine m'incitaient à retenir ces noms. N'avais-je pas droit à quelques illusions comme antidote à cette méfiance grandie sur les rebuffades ? L'appartement était vaste, les plafonds hauts. De la rue, on voyait des rideaux de velours protéger les meubles et l'intimité. Je me réjouissais d'entrer dans une maison cossue, dont les occupants étaient propriétaires. Tout y respirait l'ordre, le rangement, le confort. On nous a invités à prendre place dans la cuisine, où la famille, réunie autour d'une table sans relief visible, buvait de la chicorée, filtrée comme le café dans une espèce de chaussette, rincé après chaque usage. Le succès d'année était additionné de lait, accompagné de pain noir. Tandis que le crépuscule s'installait, une bougie ordinaire, posée sur une soucoupe, vacillait au milieu de la table et dansait sur les visages des antiquaires qui avaient gardé leurs blouses en serge grise ou kaki, ainsi que leurs bérets sur la tête. Cette lueur leur donnait des airs de grand-duc, perchés dans la pénombre, attendant que la nuit se pose sur la terre pour que leur proie se mette en mouvement. J'étais d'un coup transporté dans un ailleurs si saisissant, ancré dans une durée non définie, que je me demandais à quel moment il commencerait à boubouler, laissant partir ces qui m'aidaient à entrer dans le sommeil. Leurs sœurs, tresses entortillées au-dessus des oreilles, en sarraux d'indienne dans des tons bruns, tirait de la chouette culotte. On nous a fait asseoir et demoiselle Hulotte a posé devant nous un bol de lait chaud avant de nous offrir en partage le pain noir. Puis la chandelle ne suffisant plus, elle a poussé vers le haut un interrupteur. Une lampe garnie d'une ampoule de 15 bougies s'est allumée, diffusant dans la pièce une lumière de tombeau sans feu follet. J'étais déconcertée. Il y avait un tel décalage entre les objets qu'ils offraient à la vente et le morceau qu'ils me jouaient, j'avais heureusement ma sœur comme témoin, que mes repères, pris en fonction de mes lectures et de la profession de ces gens, disparaissaient à la manière des miettes de pain semées par petits poussets. Où étais-je ? Était-ce là leur dernier repas de la journée ? Car, affirmaient-ils, ils se couchaient peu après la tombée de la nuit et se levaient aux premières lueurs de l'aube pour ne rien perdre de la lumière de Dieu généreusement offerte à qui sait la voir. Et en hiver ? Ils se tenaient tous les quatre dans cette cuisine, comme ce soir, autour de la table et lisaient la Bible. Ça évitait de chauffer les autres pièces de la maison. Et la Bible était une lecture qui nourrissait l'âme. Pour cela, ils vissaient à la lampe une ampoule plus forte. Mais comme ils lisaient à tour de rôle pour ménager leurs yeux et s'arrêtaient souvent pour développer leurs commentaires, ils n'avaient même pas besoin d'une 100 bougies, parce que ça coûte cette chose qui vous fait le jour au milieu de la nuit. Ensuite, ils se couchaient à la même heure qu'en été, entre 9 et 10, avec une bouillotte pour réchauffer le lit. Comme la vie était simple, comme la vie était belle, tous ensemble réunis autour de leur mère. Les grands-ducs en verve, visages imberbes et demi-sourire entre leurs lèvres minces, se sont mis à diffuser ce qu'ils estimaient être un enseignement. Pointant un index vers nous, ils en ont fait jaillir des vérités puisées dans le livre, adoptées par eux comme chemin de vie pour nous les asséner jusqu'à épuisement. Il était bon pour l'homme de ne point toucher la femme. Celui qui se mariait faisait bien. Celui qui ne se mariait pas faisait encore mieux parce qu'il s'inquiétait des choses du Seigneur. La responsabilité des parents vis-à-vis des enfants était immense. Quand on n'avait pas de quoi, on s'abstenait. Et si, au lieu de vaquer à la prière, on était incapable de s'abstenir, alors on se sacrifiait pour eux. S'abstenir? Mais de quoi? De la classe de latin, j'avais retenu que cela signifiait se tenir à distance. Je savais que papa et ses nombreux frères et sœurs s'abstenaient de boire du vin, ayant été marqués dès leur jeune âge par l'alcoolisme d'un père qui cassait tout à la maison et les avait mis sur de la vraie paille. Que signifiait alors ce verbe répété deux fois? Un malaise me traversait, induisant un mouvement de tête, un hochement d'approbation peut-être, derrière la façade. J'étais en train de comprendre que, au-delà de l'invitation aimable et souvent réitérée par la mère, nous, les désargentées filles de fauchés, les maigrichonnes aux yeux clairs, avions droit, faute d'un vrai repas, à un prêche proféré par deux apôtres du célibat, chantres du pain noir et prophètes d'une vie qui ne se continuait qu'au ciel. Amen. Ces éteigneurs de réverbères s'alimentaient de vieilles graisses, mais même avaricieux, ils avaient du cœur, car qui d'autre qu'eux nous avait ouvert leurs portes? Je n'allais pas me mettre à prier pour autant. Si Dieu avait voulu que je mangeasse de ce pain, il eût dû me faire naître chez ces vertueux-là, pensais-je à peu près, en essayant de me souvenir de la leçon du matin sur les propositions irréelles. Tandis que les autres filles voyaient pousser leur sein, un curieux esprit de rébellion m'assombrissait le regard. Si je savais résister à l'hostilité sourde des commerçants, ce n'était pas pour me laisser convaincre par ces curieux personnages. J'aimais trop les meringues chantilly ou les pavés au chocolat pour gober ce prêchi-prêcha. Et, pendant qu'à travers nous, nos parents se faisaient sermonner, la vieille dame et la hulotte nous regardaient d'un air attendri. Comme la vie était simple, comme la vie était belle, bis repetita. Nous sommes retournés dans la cuisine des antiquaires, 3, 4 ou 5 fois peut-être. Ils aimaient bien nous voir arriver, disaient-ils. J'en doutais, mais j'y allais quand même. À la maison régnait la désorganisation à cause de ce bébé arrivé si tardivement. Plus personne ne s'occupait de nous. Chez eux, au moins, nous avions l'impression d'exister. Nous recevions un bol de lait crémeux. Ma sœur était sûre que si on pensait à autre chose, on entendrait moins le saint blabla et que si on décidait que c'était drôle, on oublierait le reste. Cela suffisait à nous délivrer d'un irrésistible pincement au moment de soulever l'élégante main en laiton. Depuis que nous étions reçus dans cette maison, Madame de la laiterie se montrait moins rude quand il nous manquait 1 ou 2, voire 3 de ses sacro-saints centimes rouges. L'aile des grands-ducs étendait-elle sa protection jusque-là, ou les « ohu, ohu, ohu » y avait-il soufflé un air de compassion? La laiterie, après tout, ne se trouvait qu'à 5 maisons de chez eux. Me trouvant un jour en possession de la somme exacte, il m'a même semblé qu'elle rajoutait en catimini un fond de mesure. Perception subjective ou vraie manifestation de bonté. Peu importe, cette nouveauté que je croyais déceler me donnait le sentiment d'avoir fait un héritage. Une dorsale de haute pression s'est ensuite installée sur le pays, la petite sœur a grandi, la situation parentale s'est améliorée, les ardoises enfin effacées ont changé l'air que nous respirions en traversant la rue. Ma sœur et moi, nous avons quitté très tôt la maison, faisant de la place aux petits. Nous nous sommes installés dans une grande agglomération, là où on a le plus de chances d'échapper au « qui a vu qui, où, quand, quoi ?» La longévité de mes parents a dépassé la norme prévue par la statistique. Conformément à ces données, c'est le père qui est parti en premier. Ensuite, notre mère a souhaité aller dans une maison de retraite, proche du lieu où ses enfants avaient fait souche. Et puis, tandis qu'elle déclinait et commençait à vivre en fixant le sol, une vieille dame, accompagnée de son mari, est venue la saluer chaleureusement en lui prenant les mains, lui certifiant que cela lui faisait beaucoup de bien de retrouver un visage si souvent aperçu durant toute sa vie dans la petite ville au bord du lac. C'était Madame de la laiterie et Monsieur, amaigris par le grand âge, tout raidi de rhumatisme, marchant à petits pas, hésitant, leurs jambes ne se pliant plus, l'un cédant de ses cannes, l'autre d'un déambulateur. Ma mère m'a annoncé la nouvelle et, m'envoyant les saluer, elle a retrouvé le ton de jadis quand elle m'expédiait sur le front du lait. C'est alors qu'un flux de vieux souvenirs est remonté et d'un air amusé, je me suis dirigée vers eux, certaine qu'il y avait dans leur venue en ce lieu un zeste d'ironie ressemblant à une épice savoureuse sur des blessures enfin cicatrisées. Quand je lui ai demandé comment elle allait, elle a répondu par un doucement, tout doucement, roucoulement plaintif de colombe, indifférente désormais au caquetage humain. Et lui, malgré le grand âge, n'avait rien perdu de son air fâché, et sans bjour, peinait à sortir, comme si la raideur rhumatismale l'entravait encore plus. À cette époque, j'allais souvent manger vers ma mère, le dimanche à midi, jour qui, pour elle, représentait le seul moment où une visite était bénéfique selon un rythme hérité des temps ruraux. Après 6 jours à 12 heures travaillées, chacun avait droit à la détente et au repos. Le dimanche, le menu était forcément plus élaboré. On habillait la table d'une nappe en coton avant de dresser le couvert et on portait des habits propres, bien repassés. La table à laquelle nous mangions était proche de celle du vieux laitier et de son épouse. J'imaginais capter une ou deux phrases de leur conversation. À cause d'une naïveté combinée au refus de voir que le grand âge rend taiseux le plus bavard, j'ai dû me contenter de 2 ou 3 borborygmes mâchonnés avec le rôti de veau ou romarin. À la fin du repas, les pensionnaires retournent dans leur chambre pour la sieste, comptant leurs pas, à califourchon sur leur canne ou poussant leur déambulateur qu'on appelle chez nous « tintébin ». Le vieux laitier, passant près de notre table, a eu ces mots obséquieux presque dans sa bouche. « Au revoir, mesdames, bonne nuit !» Ma mère s'est contentée de répondre, comme chaque fois qu'il y avait du mouvement à 7 heures de la journée, « Bonne reposée !» d'une voix très forte de personne qui ne s'entend plus. Au laitier, j'ai répondu « Au revoir, monsieur, bon après-midi !» Et ce dernier mot a eu pour effet de réveiller la fureur antique du sonneur de cornes. Tout en fixant ses pieds dans leur avancée au sol, il s'est mis à trembler. On voyait la colère l'agiter de toutes parts. Il a crié à sa femme « T'entends ? On se fout de ma gueule ? J'ai dit bonne nuit, on me répond bon après-midi !» Puis il a réitéré ses paroles portées par le même tremblement avant de disparaître dans l'ascenseur en compagnie d'une aide-soignante, retournant à cette grande vieillesse, faite d'or où les tâches ne succèdent plus aux tâches, où les jours sont vécus dans l'attente d'un repas, d'un soin, de la toilette et d'une éventuelle visite des enfants qu'ils imaginent encore trentenaires. Les jours anciens me sont revenus d'un souffle. Je me suis retrouvée au pied de l'autorité que l'homme représentait un demi-siècle plus tôt, tandis que je ne pouvais m'empêcher de sourire au comique issu de cette perception forcément décalée, parce que, à cet âge, les repères d'une vie s'effacent progressivement. J'étais désolée de ce sourire auquel j'avais droit. Ce n'était pas moi qui avais dit une bêtise. Et puis, cette fois, j'étais en position de force. Un conte très ancien avait-il trouvé sa résolution ? Face au choc du réel, on est toujours moins philosophe qu'on ne l'imagine. Il est mort peu après, lors d'une absence de sa femme hospitalisée pour une infection grave. À la salle à manger un dimanche, il n'y avait plus personne. Demandant à ma mère la raison de leur absence, elle m'a répondu qu'ils étaient en vacances. Il est parti, emportant avec lui son air fâché, n'ayant sans doute pas compris pourquoi celle qui avait toujours été à ses côtés s'était évanouie soudain. L'avait-il cru morte ? Ce grand bourru qui avait passé sa vie derrière un masque avait imaginé la suivre là où elle n'était pas encore. Au petit matin d'un de ces printemps qui font des mines d'hiver, je me trouvais dans une vallée du Jura, encore indemne de civilisation. Entendant une puissante sonnerie de cornes, j'ai remarqué un troupeau d'aurochs. Je me suis approchée. Le coroner en tenue solennelle s'est tourné vers moi avec un grand sourire, m'a souhaité la bienvenue dans la vallée du Hérisson. Malgré le contre-jour, j'ai reconnu le laitier dans la force de l'âge. Il a rejoint son nom, ai-je pensé. Ensuite, j'ai entendu boubouler. Je savais que ce ululement annonçait la fin de la nuit, puisque perçu quand la nature proche des habitations se rappelait aux mémoires humaines. Un battement d'ailes s'est fait entendre. J'ai compris que l'un des grands-ducs me saluait. Sans réagir à mon souhait d'entamer un dialogue, le corneur s'est remis à jouer, soulagé peut-être d'exprimer une paix enfin rencontrée. Sortant de mon rêve, il m'a fallu un moment encore pour découvrir le détail qui m'avait tellement frappé, le sourire. J'avais vu un sourire sur ses lèvres. Enfin, il est entré dans le presque parfait, ai-je murmuré. Voilà.
C'était Jeannine Massard, enregistrée le 22 avril 2009 à Soleure.